Voilà, le Christ est ressuscité, qu'il vous bénisse tous. Alors, nous allons continuer notre pérégrination dans l'évangile de Saint Jean avec les chapitres 7 et 8 et notamment le thème dans le 8e chapitre de la lumière du monde et le « Je suis », la signification du « Je suis » que l'on voit à la fin du 8e chapitre, mais il y a plusieurs versets où le Christ affirme « Je suis ». On va voir ce que ça signifie. Alors, cette section, évidemment, elle est très importante, elle a 111 versets en tout. Elle fait suite au chapitre 6 dans la succession du texte. Et nous avions vu donc à la fin du chapitre 6, après le discours du pain de vie et après l'affirmation du Christ « Qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie », que cette parole, selon l'évangéliste Jean, qui la relate, était trop dure à entendre. Beaucoup de disciples quittèrent le maître à ce moment-là. Seuls les 12 restèrent et il y avait l'annonce donc de la trahison de Judas, l'un des 12. Avec le chapitre 7, au début du chapitre 7, et même tout au long de ce chapitre et dans le chapitre 8, on voit les menaces augmenter, les menaces contre Jésus, bien sûr. Il est même très clairement dit, au verset 1, que les Juifs cherchaient à le faire périr. Je prends le texte dans la Tobe. Dans la suite, Jésus continua. Ah, bon, c'est le chapitre 7 qui commence. Dans la suite, Jésus continua à parcourir la Galilée. Il préférait en effet ne point parcourir la Judée où les Juifs cherchaient à le faire périr. Alors il y a une traduction beaucoup plus intéressante du texte grec littéralement, où il est dit « Il préférait en effet ne point parcourir la Judée où les Juifs cherchaient à le faire périr ». Littéralement, selon le texte grec, il est dit de Jésus qu'il n'avait pas le pouvoir « exousia » de parcourir la Judée. Alors cette expression « il n'avait pas le pouvoir » a donné du fil à retordre aux commentateurs. Et notamment Saint Jean Chrysostome, dans son commentaire du chapitre 7, dit « Comment toi, bienheureux Saint Jean, tu dis que le maître de toute chose, celui dont dépend toute la création, comment peux-tu dire qu'il n'avait pas le pouvoir ?» Donc ça a posé problème. Et là, la traduction que donne la Tobe, évidemment, n'a rien à voir avec. On dit « il cherchait ». Jésus préférait en effet ne point parcourir la Judée. Bon, ce qui est intéressant et important à souligner ici, c'est que il y a des menaces de mort sur qui planent sur Jésus. Pourquoi ? Alors, on avait vu déjà au 4e chapitre les versets 1 à 3. Qui relate le fait que les pharisiens, ayant entendu dire que Jésus baptisait, alors que ce n'est pas Jésus qui baptisait, mais c'est ses disciples, nous dit l'Évangile, mais les pharisiens ayant entendu dire que le maître baptisait, celui-ci préféra quitter la Judée et partir en Galilée. Et puis alors, il y a surtout, au chapitre 5, nous l'avions vu également, le verset 18 qui nous dit, après que Jésus donc ait fait la guérison à Bethesda, et qu'il est dit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis », donc ça a été interprété par les pharisiens comme une prétention de Jésus d'être l'égal de Dieu. Le verset 18 du chapitre 5 dit « À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, puisque cette guérison a eu lieu un jour de sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc les menaces contre Jésus sont déjà plus anciennes que celles qui figurent au chapitre 7, mais là, les choses vont se préciser. Tout l'ensemble des 111 versets du chapitre 7 et du chapitre 8 vont être gros de menaces contre Jésus et vont être pleins d'une polémique assez dure. Il y a une tension dans ces deux chapitres qui va monter jusqu'au terme du chapitre 8 où Jésus va faire l'objet d'une tentative de lapidation. Alors, l'hostilité, évidemment, qui est manifestée par les Juifs, il faut en parler un peu plus, parce que le texte parle des Judaïoï, qui sont ces Judaïoï, et il parle aussi des pharisiens, dans le chapitre 8. Bon, déjà, on sait que dans l'évangile de Jean, quand on parle des Juifs, je crois que la Nouvelle Tope d'ailleurs parle des Judéens à cet endroit-là, si mes souvenirs sont exacts. Quand on parle des Juifs, il s'agit des autorités, des chefs des Juifs. Ce n'est pas l'ensemble des Juifs, parce qu'on le voit dans le chapitre 7 et dans le chapitre 8, que les gens sont partagés quant à la personne de Jésus et quant aux révélations qu'il proclame publiquement. Donc, ce n'est pas tous les Juifs qui sont désignés, encore moins, bien sûr, tous les Juifs dans la succession des temps, ce qui n'aurait aucun sens. Ce n'est pas tous les Juifs qui sont désignés, puisque lui-même, dans son humanité, le maître est juif, sa famille est juive, ses disciples sont juifs, l'évangéliste est juif, bon, donc ça n'aurait aucun sens. C'est donc bien les autorités qui sont désignées. Et quand il parle des pharisiens, là aussi, il y a des divisions parmi les pharisiens. J'ai appris hier soir qu'il y avait sept sortes de pharisiens, je ne savais pas, selon la tradition juive, et que sur les sept sortes de pharisiens, il y en a six qui sont mauvaises et une qui est bonne. Donc, c'est tout nouveau pour moi, je ne le savais pas. Mais donc, là aussi, il faut discerner. Il ne faut pas amalgamer l'ensemble des pharisiens, puisque eux-mêmes sont divisés sur la personne de Jésus. Et on voit d'ailleurs, dans le chapitre 7, réapparaître Nicodème, qui est l'un des leurs, et qui, lui, justement, prend position pour Jésus. D'ailleurs, lequel Nicodème fait un parcours de foi assez remarquable. Parce que vous vous souvenez qu'au début de l'évangile, dans la rencontre de Jésus avec Nicodème, finalement, Nicodème, avant de dire, s'agissant du Christ, qu'il est un maître en Israël, qu'il est le Fils de Dieu, sans que ce vocable de Fils de Dieu recouvre complètement la plénitude qu'il va prendre après, hein, mais il avait commencé par déclarer de Nazareth, que peut-il venir, hein. Ensuite, dans le chapitre 7, on va le voir prendre fait et cause pour Jésus en disant que bon, ben, s'il doit y avoir un procès, il doit être équitable. La loi est telle qu'il doit être entendu et il va se mettre à dos donc les autorités, on va le voir. Et puis, on le trouvera au moment, après la crucifixion, on le trouvera donc comme témoin au pied, pas au pied de la croix, mais comme celui qui emmènera des arômes pour embaumer le corps. Il y aura bien sûr les femmes myrophores, mais Nicodème également. Tous les évangélistes ne le nomment pas d'ailleurs sur cet acte-là. Enfin bon, donc on voit qu'il y a un beau parcours de foi chez cet homme qui pourtant est un sage en Israël et qui est un pharisien. Donc là aussi, pas de généralisation hâtive quand on parle des pharisiens. Bon, les autorités s'opposent à Jésus depuis longtemps, et là, elles cherchent à le faire périr. Mais le chapitre 7 commence aussi par l'incrédulité des frères de Jésus. Nul n'est prophète en son pays. Ses frères, ils sont incrédules. Ils le voient, probablement comme un thaumaturge qui accomplit des actes extraordinaires, mais leur caractéristique, c'est qu'ils ne croient pas, en fait. Et ils souhaitent qu'il se manifeste, parce que eux, ils vont aller, donc ils vont monter à Jérusalem, et ils souhaitent qu'il se manifeste aux disciples à Jérusalem, pour que les disciples, nous dit le texte de saint Jean, puissent voir les œuvres que tu fais. On n'agit pas en cachette quand on veut s'affirmer. Puisque tu accomplis de telles œuvres, manifeste-toi au monde. Voilà, donc les frères qui ne croient pas montent à Jérusalem et le somme de se manifester par des actes susceptibles de le faire reconnaître. Et Jésus va refuser. Il sait que ses frères eux-mêmes ne croyaient pas en lui, nous dit saint Jean, et il refuse de monter à Jérusalem avec eux parce que son temps n'est pas encore venu. Alors voilà encore une fois le thème du temps qui n'est pas encore venu. C'est un thème récurrent qui parcourt l'évangile de Jean. Le temps sera venu lorsque sera venue l'heure de l'élévation, de la glorification du Fils par le Père, et cette élévation, elle passe par la croix. À ce moment-là, le temps sera venu, mais là, on n'est pas encore dans ce temps. Alors, le temps dont il s'agit ici, ce n'est pas le chronos, ce n'est pas le temps de nos pendules, ce n'est pas l'écoulement des minutes et des heures de la journée, des semaines, des mois et des années. C'est le kairos, c'est-à-dire c'est le temps significatif, qui est porteur d'un événement, quant au dessein de salut de Dieu. Donc, c'est le kairos et non pas le chronos. Donc ce kairos n'est pas encore venu, et il dit à ses frères, votre temps à vous, vous êtes toujours favorable, parce que c'est le temps du monde, donc ils ne sont pas liés avec le temps significatif, le temps où s'accomplit les desseins de Dieu. C'est le temps ordinaire du monde, et il est toujours favorable à ceux qui vont monter à Jérusalem, c'est-à-dire, en l'occurrence, les frères de Jésus. Et parce que ces frères sont du monde, le monde ne peut pas les haïr, mais parce que lui, Jésus, n'est pas du monde, nous dit saint Jean, eh bien, le monde le hait parce qu'il témoigne que ses œuvres sont mauvaises. Et là, on a encore une distinction, si vous voulez, qui est faite dans l'évangile de Jean, entre le monde et ce monde, souvent saint Jean distingue les deux de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il y a deux figures du monde. Il y a le monde qui est la création de Dieu et qui est bonne. La création est bonne, dit le livre de la Genèse, parce qu'elle obéit à un dessein de Dieu, donc tout ce qui vient de Dieu est bon, par essence. Et il y a ce monde en ce sens que c'est le monde qui appartient à l'autonomie de l'homme qui est dressé contre son Créateur, l'homme qui est, par voie de conséquence, dans le péché et qui est dans l'héritage de la mort. Donc c'est ce monde-là qui est le Seigneur, parce que le Seigneur connaît de l'intérieur ses œuvres mauvaises et il témoigne contre lui. Donc là-dessus, les frères montent à la fête, et le Seigneur dit, pour ma part, je n'y monterai pas, car mon temps n'est pas encore accompli. Après avoir ainsi parlé, il demeure en Galilée, mais lorsque ses frères furent partis pour la fête, il se mit en route, lui aussi, sans se faire voir et presque secrètement. Vous voyez, alors ça peut paraître un peu surprenant, que dans un premier temps, il oppose un refus à ses frères, et que ensuite, il monte à Jérusalem pour la fête. Mais on verra que il arrive à Jérusalem au milieu de la fête. Donc il y a un temps où il est toujours en Galilée, lui, dans l'intimité avec son Père, avec le Père des cieux, son Père. Hein. Et il va se mettre en route. Alors là, on a une indication. Il a refusé d'obéir à l'injonction de ses frères de monter avec eux, mais il va néanmoins se mettre en route. C'est-à-dire que en toute chose, il obéit au dessein de Dieu. Jésus obéit au dessein de Dieu en toute chose. Il est venu, lui qui est le Verbe fait chair, il est venu manifester le dessein de Dieu. Et donc, en toute chose, il obéit et en temps voulu. Hein ? Ça, c'est très important à se souvenir. Et on voit donc que le Seigneur monte à Jérusalem et il va y entrer, nous dit l'Évangile, presque secrètement. De la même manière, il partira, il échappera au regard de ses adversaires à la fin du chapitre 8, quand ils voudront le lapider, donc au verset 59, il s'esquivera. Donc, il arrive secrètement et il part quasiment tout aussi secrètement. Alors, il a beau arriver secrètement, la ville ne fait que parler de lui, en fait. Hein ? Parce qu'à partir du chapitre 11, du verset 11 du chapitre 7, la question commence à être posée, « Où est-il donc ?» Hein ? Les Juifs le cherchaient et on disait, « Où est-il donc ?» Dans la foule, on discutait beaucoup à son propos. Les uns disaient, « C'est un homme de bien », d'autres, au contraire, « Il séduit la foule ». Toutefois, personne n'osait parler ouvertement de lui par crainte des Juifs. Alors, la fête, il fait mention de la fête. De quelle fête s'agit-il ? Il s'agit de la fête des tentes. Un autre nom lui est donné, la fête des tabernacles, ou plus exactement la fête des huttes. Le soukot, la souka, c'est la hutte. Et ça fait référence, donc, c'est une fête d'automne, d'abord. C'est la troisième fête de pèlerinage, c'est-à-dire qu'il y a Pessah, la Pâque, Shavuot, 50 jours après Pâques. Shavuot, c'est la deuxième fête de pèlerinage, avec le don, on célèbre le don de la loi que Dieu fait à Moïse. Et Sukkot, c'est à la fois une fête des récoltes, une fête des vendanges, pour les Hébreux qui se sont sédentarisés. C'est une fête d'automne, et c'est une fête où on fait mémoire de la pérégrination des Hébreux au désert. C'est une fête où pendant laquelle il y a eu la dédicace du temple de Salomon. Et c'est une fête qui a des aspects aussi eschatologiques, où on fait mention du roi Messie qui doit venir. C'est une fête de pèlerinage, ça veut dire que tout Israël monte à Jérusalem, en tout cas tous ceux qui le peuvent, mais pendant ces trois fêtes de pèlerinage, on monte à Jérusalem, on monte au temple. Et même on vient aussi de la diaspora, quand on peut le faire, pour ces trois fêtes de pèlerinage. Et alors vous savez que dans l'évangile de Jean, la révélation est liée très largement aux fêtes, aux grandes fêtes juives. Et là, évidemment, il y a aussi la figure du temple dans ces grandes fêtes juives. Parce que la révélation de Jésus comme source de vie, comme source de vie, oui, comme on va le voir au milieu du chapitre 7, et comme lumière du monde, a lieu dans le temple durant la fête dans le cadre même de la fête des huttes, de la fête des tentes. Alors, où est-il donc ? Ça va venir près d'une dizaine de fois, cette interrogation. Et là, on voit que le peuple qui est présent est partagé. Certains disent que c'est un homme de bien, d'autres l'accusent d'être un séducteur, un faux prophète qui égarerait la foule. Mais tout le monde se tait. Hein. Tout ça, ça se passe, c'est des discussions où on chuchote, hein, parce qu'on craint les autorités. Parce que les autorités, elles, sont déterminées à faire périr Jésus, alors que la foule est partagée. Et Jésus arrive, donc, vers le milieu de la fête. Alors, la fête, il faut se rappeler qu'elle dure une semaine, 7 jours, plus une journée, qui est la conclusion. C'est une fête qui a été, si mes renseignements sont exacts, cette journée a été rajoutée, puisqu'il y a les 7 jours proprement dits de la fête, plus la journée de ce qu'on appelle la Simrat Torah, donc qui est le jour de clôture de la fête, qu'on célèbre la joie de la Torah. Il arrive au milieu de la fête et il se met à enseigner dans le temple. Et ça, déjà, on a des choses précises sur la tension qui va s'instaurer entre Jésus et ses interlocuteurs. Le fait qu'il se met à enseigner dans le temple va surprendre ses interlocuteurs, mais va pas les surprendre agréablement, comme en d'autres lieux de l'Évangile, puisque on va être en présence d'un questionnement. Saint Jean nous dit, comment est-il si savant, lui qui n'a pas étudié ? C'est les Juifs, hein, bien sûr, qui, étant surpris, disent, comment est-il si savant, celui qui n'a pas étudié ? En fait, la Tob dit si savant, mais c'est... Bon, c'est pas... Littéralement, ça veut dire, comment connaît-il les lettres, celui qui n'a pas étudié ? Alors, il faut se rappeler que... Au temple, ne peuvent enseigner que ceux qui s'inscrivent dans une tradition de maître à disciple, hein, puisque on apprend l'écrit, on entre dans l'intelligence et dans l'interprétation de l'écriture et de la tradition orale, parce que les deux sont inséparables. Hein. Il faut toujours se souvenir de ça. Hein. Il n'y a pas que l'écriture, il y a la tradition orale qui interprète l'écriture, et elle a autant d'importance. D'ailleurs, dans le Midrash de la Genèse, ce Midrash de l'Exode, il est bien dit que la loi orale est révélée à Moïse aussi bien que la loi écrite. Donc les deux sont très importants, et d'ailleurs dans la tradition chrétienne, chez les pères cappadociens, par exemple chez Basile de Césarée, Saint Basile le Grand, Basile le Grand dit qu'il y a la tradition avec le versant écrit et le versant oral. Donc celui qui n'a pas étudié, celui qui n'est pas reconnu comme ayant étudié sous la férule d'un maître, qui n'est pas porteur d'une tradition, qui n'a pas étudié dans une école, parce qu'il y a plusieurs écoles dans la tradition orale, celui-là ne peut pas enseigner dans le temple, bien sûr. Et lui, dont on sait qu'il ne dépend pas d'un maître, qui n'a pas reçu un enseignement traditionnel d'un maître, qui n'a pas étudié l'écriture sainte dans une école, eh bien, sous la férule d'un maître, eh bien, voilà qu'il enseigne avec autorité, en plus, dans le temple. D'où la question, des autorités, des Yudaïoï. Jésus leur répondit : Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Voilà déjà de quoi fortement étonner ceux qui sont les contradicteurs de Jésus. Et il ajoute : Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura que cet enseignement vient de Dieu, ou si je parle de mon propre chef. Qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Seul celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est véridique. Et il n'y a pas en lui d'imposture. Ça renvoie donc, évidemment, l'argument vaut pour le croyant, mais celui qui n'est pas dans l'attitude de croyant, bon, peut néanmoins recevoir l'argument parce que ça renvoie au serviteur souffrant d'Isaïe qui ne cherche pas sa propre gloire, qui est absolument véridique et sans mensonge. Donc il n'y a pas en lui d'imposture. Et c'est à ce titre-là que, bien qu'il n'ait pas enseigné, le maître dit « Mon enseignement, eh bien, je le tiens de celui qui m'a envoyé », manière de souligner devant ses contradicteurs l'intimité qui l'unit comme fils par rapport au Père. Donc, et ayant souligné cette intimité, il dit que si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, eh bien, il saura que cet enseignement vient de Dieu. Alors là, il y a deux conceptions de la loi qui s'opposent, en fait. Il y a une conception juridique qui prend en compte la lettre des préceptes de la loi, et puis il y a une conception autre qui est celle que dont Jésus est porteur, c'est que si on entre véritablement dans cette loi, on écoute la parole de Dieu, et la parole de Dieu a pour objectif de communiquer la vie. Et celui qui écoute la parole, eh bien, il reçoit la vie dans la loi, car évidemment, tout ça doit se passer dans la justice, et la loi est inséparable de la justice. Et ça continue par une... là, il y a un jeu de questions et de réponses entre Jésus et ses interlocuteurs et contradicteurs. N'est-ce pas Moïse qui vous a donné la loi ? Or, aucun de vous n'agit selon la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ? Et évidemment, donc, la volonté de rejeter Jésus en le faisant mourir, lui qui est l'envoyé du Père, eh bien, c'est quelque part le signe de l'infidélité radicale à cette loi que Moïse a reçue de Dieu. Et là, on peut se reporter à plusieurs passages sur cette chose-là, en 5.47, en 7.49.51 et en 8.37.41. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ? La tension continue à monter, puisque la foule lui répond : Tu es possédé d'un démon, qui cherche à te faire mourir ? Jésus reprit la parole et leur dit : Je n'ai fait qu'une seule œuvre, et tous vous êtes étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, encore qu'elle vienne des patriarches et non pas de Moïse, et vous la pratiquez le jour du sabbat. Si donc un homme peut recevoir la circoncision un jour de sabbat, sans que la loi de Moïse soit violée, pourquoi vous irritez contre moi parce que j'ai guéri complètement un homme un jour de sabbat ? Cessez de juger selon les apparences, apprenez à juger selon ce qui est juste. Alors, effectivement, la circoncision, la pratique de la circoncision un jour de sabbat n'est pas violation de la loi, puisque ce que la loi commande, c'est que le nouveau-né soit circoncis 8 jours après sa naissance. Et donc, la circoncision peut intervenir un jour de sabbat, c'est en fonction du jour de naissance. Et Jésus oppose l'argument donc à ses contradicteurs en leur disant, bon, la loi, si on l'écoute véritablement, elle est un chemin de vie. Et donc, si on peut circoncire un jour de sabbat, à plus forte raison, pourquoi me reprochez-vous d'avoir guéri complètement un paralytique le jour de sabbat, alors que ça correspond effectivement à l'objectif de la loi, qui est la guérison de l'homme, puisque la loi est chemin de vie. Hein ? Vous voyez, c'est... Donc, le Seigneur leur demande de cesser de juger selon les apparences et à apprendre à juger selon ce qui est juste. Alors évidemment, toutes ces discussions, tensions, créent des divisions parmi les auditeurs, et il y a des interrogations qui surgissent. Au verset 25, des gens de Jérusalem disaient « N'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir ? Le voici qui parle ouvertement et on ne lui dit rien. Nos chefs, nos autorités auraient-elles vraiment reconnu qu'il est bien le Christ ?» Bon, là, je pense qu'il y a de l'ironie johannique derrière tout ça, mais on voit bien que la foule s'interroge, parce que il y a l'agacement, pour ne dire que cela, des autorités quand Jésus enseigne, parce que les autorités remettent en cause la prétention de Jésus à enseigner dans le temple, lui qui, selon eux, n'a pas étudié dans une école traditionnelle. Et puis, il y a l'accusation d'être possédé d'un démon. Il y a les deux conceptions de la loi, celle des autorités et celle dont Jésus nous parle. Et puis, il y a les interrogations de la foule. Hein. Il y a une espèce de va-et-vient sans arrêt dans l'ensemble de ces versets. La foule hésite, en fait, toujours, va d'un point de vue à un autre. Bon, est-ce que c'est un homme de bien ? Est-ce que c'est un séducteur ? Ne serait-ce pas le prophète annoncé par Moïse ? Serait-il le Christ, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction ? Et là, la foule s'étonne. Alors que les autorités veulent le faire mourir, elles le laissent enseigner dans le temple, donc peut-être qu'elles le reconnaîtraient véritablement comme étant le Messie. Et le verset 27 ajoute, « Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, tandis que lorsque viendra le Christ, nul ne saura d'où il est. »
D'où leur venait cette question de, enfin, le fait qu'ils étaient persuadés que personne ne saurait d'où ils venaient.
Alors, il y a plusieurs choses là. Il y a une tradition. Bon, il y a une affirmation, par exemple, chez le prophète Michée. Il a bien l'affirmation, c'est dans Michée au chapitre 5, que le Messie doit venir de la cité davidique, Bethléem. Hein ? Bon, et puis il y a une tradition dont d'ailleurs l'évangile se fait l'écho, l'évangile de Saint Jean se fait l'écho. Il y a une tradition qui veut que on ne sait pas d'où il vient le Messie, on ne sait pas d'où il est, d'où il vient, et même dans le dialogue avec le rabbin Tryphon, Saint Justin, philosophe et martyr, rapporte que le Messie, quand il viendra, n'aura même pas lui-même conscience de qui il est tant que Élie, donc celui qui annonce la venue du Messie, ne lui aura pas donné l'onction. Et là, vous vous souvenez que au début de l'évangile de Saint Jean, il y a un écho de cette tradition avec Jean-Baptiste. Hein ? C'est-à-dire que quand on l'a interrogé, Jean dit que lui-même, il ne sait pas qui il est. Alors que, bon, ils sont cousins. Donc il le connaît en tant qu'homme. Il le connaît. Mais il ne le connaît pas dans sa messianité. Hein, à ce moment-là. Hein, il dit, moi-même, je ne le connaissais pas. Donc il y a cette tradition qui veut que... c'est une tradition... Donc, qui fait partie de la tradition orale dans le judaïsme, qui veut que on ne sait pas d'où vient le Messie. Alors là, on peut remarquer aussi qu'il y a toujours cette technique du malentendu hein, qui est présente dans l'évangile de Jean.
Là. En fait, après ce que vous dites, on peut penser que cette tradition, elle est fausse, alors, puisque...
Bon,
puisque si le Christ, on sait d'où il vient, et que la tradition dit que on ne sait pas d'où il est, on peut penser que la tradition n'est pas juste.
Non, mais parce qu'il y a aussi ce qui se joue derrière ça. Bon, il y a bien cette tradition qui veut que le Messie, on ne sait pas d'où il vient. Bon, mais ce qui se joue derrière ça, c'est que il y a le procédé qu'on retrouve dans l'évangile de Jean du malentendu. Effectivement, bon, eux, les chefs des Juifs ont une vue. Ils jugent selon les apparences, ils connaissent, disons, enfin, ils prétendent connaître la généalogie de l'homme qu'ils ont devant eux. Donc c'est un Galiléen, d'une famille de Nazareth, ils ont oublié d'ailleurs qu'il est né à Bethléem. Bon, et ils regardent à ce niveau-là. Mais en fait, ils ne savent pas d'où il vient quant à sa divinité. C'est, je veux dire, ça leur est caché, vous voyez ? Ça leur est caché. Alors, Jésus reprend la parole, et toujours en enseignant dans le temple, il dit « Vous me connaissez donc, vous savez donc d'où je suis, et pourtant je ne suis pas venu de moi-même, celui qui m'a envoyé est véridique, lui que vous ne connaissez pas. » Comme ils ne connaissent pas l'envoyé, ils ne connaissent pas, en fait... C'est ça que l'évangile de Jean affirme. Comme ils ne connaissent pas l'envoyé, ben, ils ne connaissent pas celui qui l'a envoyé.
Oui. Hein? Donc, ils n'avaient pas compris la tradition. Alors.
On va voir. C'est très complexe, attention. Hein. Ces deux chapitres-là, le chapitre 7 et le chapitre 8, c'est très très complexe. Hein. C'est très difficile à aller à l'intérieur. Hein. Faut bien voir que c'est pas un texte simple, loin de là. Mais moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui et qu'il m'a envoyé. Alors, on voit le décalage. Hein. Dans un premier temps, il y a ceux qui disent, bon, ben, est-ce que nos autorités ne l'auraient pas reconnu comme étant le Christ, puisqu'ils permettent que... Il enseigne dans le temple, mais ces gens-là se ravisent et disent « Non, ça ne peut pas être le Christ, puisque lui, on connaît son origine. » Jésus semble, dans sa réponse, aller dans leur sens en disant « Oui, ben, vous me connaissez, vous savez d'où je suis. » Mais en fait, c'est sur un plan là strictement humain, et encore, puisqu'on oublie la naissance à Bethléem, et ensuite, il cherche à, en leur disant qu'il est envoyé de celui qui est véridique, et que comme ils ne le reconnaissent pas, lui Jésus, comme l'envoyé, eh bien, ils ne connaissent pas celui qui l'a envoyé. Vous voyez, c'est.
Et toujours à double
entente toujours, et.
Voilà.
Source de malentendus en permanence.
Oui, c'est étonnant d'ailleurs.
Alors,
ça, oui, ça parce que ça revient perpétuellement
cette double... Dans ces deux chapitres et même plus loin, on retrouve toujours le procédé de...
Comme ces deux niveaux d'écoute différents. C'est comme le monde et le monde.
Ah oui, bien sûr.
Oui. La création et autre chose.
Bien sûr, oui. Alors, à partir du verset 25, on a vu que les choses se centrent sur la personne de Jésus. La petite controverse qu'il y a eu sur le sabbat s'efface. Et là, on est bien sur le dévoilement, le commencement dans ce chapitre du dévoilement du mystère de la personne de Jésus et de la tension qui en résulte, et de la polémique qui va enfler au fur et à mesure que l'on va s'acheminer vers le chapitre 8 et surtout vers la fin du chapitre 8. Alors on voit après ces paroles de Jésus que les chefs des Juifs cherchèrent à l'arrêter, mais personne ne parvient à mettre la main sur lui car son heure n'est pas encore venu. Son kairos n'est pas encore venu. Parce que, évidemment, Dieu se sert des hommes pour l'accomplissement de son dessein. Mais il s'en sert au moment venu, selon l'heure de son dessein, dans le secret de son dessein, que Jésus accomplit en toutes circonstances. À nouveau, le basculement, l'hésitation des foules. Dans la foule, bien des gens crurent en lui, et il disait, lorsque le Christ viendra, opérera-t-il plus de signes que celui-ci n'en a fait ? Et on voit à nouveau le murmure, le chuchotement, le murmure. On a déjà rencontré cette expression dans le chapitre 6, et c'est évidemment connoté négativement, ces murmures, ces chuchotements. Les pharisiens... Donc sont attentifs à ce qui se dit dans la foule, aux hésitations de la foule, et veulent en finir, et envoient des gardes pour arrêter Jésus. Alors, les gardes, d'ailleurs, oui, il y a une remarque qui est très importante là. À ce moment-là, Jésus dit « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, et je vais vers celui qui m'a envoyé. » Il y a un resserrement du temps quand même. On est dans ces chapitres proche du dénouement, proche de la glorification du Fils par le Père qui passe par l'élévation sur la croix et le procès qui va précéder. Donc, je vais vers celui qui m'a envoyé, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, car là où je suis, vous ne pouvez pas venir. Et là, ça fait appel à beaucoup de réminiscences de l'Ancien Testament. Chercher et ne pas trouver. On trouve ça à plusieurs reprises dans la prophétie. Si je retrouve... la note que j'avais prise là-dessus, je serais bien content. Bon, je ne la retrouve pas, c'est pas grave. Donc c'est une parole qui est volontairement ambiguë pour ceux qui l'écoutent, mais qui est avec une intention prophétique. Bien entendu, on est toujours dans le registre du malentendu, là, à ce propos-là. Les Juifs ne vont pas le comprendre. Et ils vont se dire, où faut-il donc qu'il aille pour que nous ne puissions plus le trouver ? Va-t-il rejoindre ceux qui sont dispersés parmi les Grecs ? Va-t-il enseigner aux Grecs ? C'est-à-dire, va-t-il partir vers vers les Juifs de la diaspora. C'est surtout, quand on parle des Grecs, là, il ne s'agit pas des Grecs païens, il s'agit des Juifs qui vivent dans la diaspora en milieu hellénistique. Hein. Et donc voilà, il y a ce dévoilement progressif qui monte aussi au long de ces deux chapitres. Hein. Il est l'envoyé, il permet par la foi en lui, si nous croyons en lui, il nous fait accéder à celui, il nous conduit à celui qui est véridique, lui-même est véridique, son Père est véridique, donc il nous ouvre le chemin vers le Père, et à chaque fois, la réponse des Juifs, ça va être des réponses connotées sur « nous connaissons qui tu es, d'où tu viens, donc tu ne peux pas être celui que nous attendons, tu ne peux pas être le Messie », les hésitations de la foule, le fait que, comme il n'est pas reçu dans la foi, on ne croit pas qu'il est véridique et on n'adhère pas à sa parole, on peut toujours le chercher, on ne le trouvera pas, d'autant que là où il va, on ne peut pas le suivre, on ne peut pas le trouver, on ne peut pas venir, comme nous dit Saint Jean. Et cette section du chapitre 8, donc, culmine sur quelque chose de très important, c'est un moment solennel. Il est dans le temple, le dernier jour de la fête, alors le dernier jour de la fête des tentes, la fête des huttes, c'est un jour particulièrement solennel, parce que c'est le jour où l'on va à la fontaine, il y a une procession, on va à la fontaine de Siloé, c'est le jour qui est lié à des libations sur l'autel du temple. Bon, donc, on va en procession à la fontaine de Siloé, on ramène de l'eau de la fontaine de Siloé dans un vase d'or, et on le répand sur l'autel en faisant le tour à sept reprises. Et c'est ce moment-là, donc le moment le plus solennel de la fête, ce jour le plus solennel de la fête, que Jésus proclame. Donc, il est debout et le texte grec nous dit « il s'écrie ». Parce que proclamation, c'est bien, mais c'est le verbe « s'écrier » est beaucoup plus fort, bon, et plus réaliste, je veux dire. Donc il s'écrie « si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que boive celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Alors ça, c'est une parole très importante, parce que c'est les deux moments décisifs de la révélation du mystère de la personne du Christ dans ces chapitres 7 et 8. Là, il est la source d'eau vive. Au chapitre 8, il sera la lumière du monde. Et il s'exclamera à trois reprises dans cet ensemble, sans attribut, je suis, en reprenant la parole de la révélation divine à l'Horeb, donc que Dieu donne à Moïse quand Moïse lui demande quel est ton nom. Donc il s'écrie, il invite à venir à lui. Lui qui est l'eau, on avait déjà vu hein, ça, hein, qui est l'eau qui ne donne plus soif, l'eau qui étanche définitivement la soif. On l'avait vu avec la Samaritaine, et on a vu que, comme du temple, de son sein coule l'eau vive, ainsi que celui, le disciple qui donne sa foi à l'envoyé qui est véridique, en qui il n'y a aucune malice, hein, celui qui donne sa foi à l'envoyé, eh bien, de son sein également, ce qui est valable pour le maître l'est aussi pour le disciple, de son sein couleront des fleuves d'eau vive, nous dit l'évangile de Jean, donc en 7:38. Donc Jésus debout, c'est Christ, la posture est importante, hein, parce que c'est à relier avec le jour le plus solennel de la fête, et il invite à venir vers lui. Et là, vous voyez que l'eau qui est promise, eh bien, ce n'est plus l'eau de la fontaine de Siloé, hein, qui joue un très grand rôle, hein, dans la tradition orale d'Israël. Hein. Cette eau, elle est connotée avec les eaux du paradis, hein, renvoie aux eaux du paradis. Donc, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe quelle eau. Mais là, il ne s'agit plus de la fontaine de Siloé, et il ne s'agit plus de l'eau qui jaillit du temple, mais il s'agit de Jésus lui-même. Et le narrateur ajoute, il désignait ainsi l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il n'y avait pas encore d'esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et c'est de la plénitude de l'esprit dont il s'agit, bien sûr, puisque l'esprit de Dieu est donné, agit dans le monde avant même la glorification du Seigneur. Mais la plénitude de l'esprit est liée à la glorification du Seigneur par sa mort et sa résurrection. Bon, donc, mais on le sait, par exemple, dès le livre de la Genèse, que l'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Donc, c'est bien de la plénitude de l'esprit dont il s'agit ici. Cette glorification de Jésus qui le fait apparaître comme le Fils unique, comme l'envoyé du Père, comme il nous était dit dans le prologue au verset 14. Alors, là encore, bien sûr, on peut ajouter que l'autel sur lequel les libations sont versées, le rite des libations avec les circumambulations autour de l'autel, les sept circumambulations autour de l'autel, au grand jour de la fête, donc septième jour, là, dans l'évangile de Jean, l'autel, c'est Jésus lui-même. L'autel du temple, c'est Jésus lui-même. Et ça renvoie donc à Ézéchiel, chapitre 47, verset 1 à 12, où l'eau qui jaillit du temple au sud de l'autel devient un torrent d'eau vive. Alors, donc là encore, on retombe à nouveau sur les hésitations de la foule qui, ayant entendu ces paroles, Saint Jean nous dit. Alors, oui, je rappelle que dans l'évangile de Jean, dans le récit de Saint Jean, donc, dont l'axe principal, c'est vraiment la révélation du mystère de la personne de Jésus, bien sûr, et de son œuvre de salut. Donc, il y a les paroles du Seigneur, il y a l'intervention du narrateur. Donc, à partir des actes et des paroles du Seigneur, il y a le narrateur qui intervient et il y a donc une interprétation théologique du narrateur. C'est quelque chose de vivant, cette parole évangélique, si vous voulez. C'est pas simplement un catalogue des paroles du Christ, mais inséparablement, c'est aussi l'intervention du narrateur qui, autour de ces paroles, interprète, construit, hein, accomplit en quelque sorte ces paroles, puisque l'interprétation et l'accomplissement sont deux choses qui sont liées. Alors, le narrateur, il intervient sous la forme de commentaires, parce que, évidemment, il faut se rappeler que Il y a l'événement historique, hein, qui sont advenus dans la vie terrestre de Jésus, donc qui sont racontés par l'évangéliste, mais qui sont commentés aussi parce que l'évangile de Jean, c'est quelque chose qui vit aussi dans une période de grande controverse entre le judaïsme pharisien et les premières communautés chrétiennes. Vous rappelez que après 70, les chrétiens les communautés chrétiennes et la synagogue vont se séparer. Les chrétiens vont être rejetés de la synagogue. Bon, donc ces deux mouvements sont inséparables. Et c'est pourquoi ça justifie également les commentaires du narrateur et ces commentaires qui sont de véritables constructions théologiques aussi. Ils nous expliquent la circonstance, c'est des constructions christologiques, parce que on va voir qu'il y a tout un dévoilement de la christologie johannique dans ces chapitres à partir de des commentaires qui sont faits, qui sont souchés sur les paroles du maître. Et donc là, on retombe sur les hésitations de la foule, la division des auditeurs de ces paroles. Certains disent vraiment voici le prophète, d'autres disent le Christ, c'est lui. Bon. Et à nouveau, contestation, le Christ pourrait-il venir de la Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas qu'il sera de la lignée de David et qu'il viendra de Bethléem ? Donc vous voyez, pour répondre de manière complémentaire à ce que vous posiez comme question tout à l'heure, il y a les deux. Hein. Il y a la tradition du Messie caché, hein, celui dont on ne connaît pas l'origine, que l'on voit dès le ministère de Jean-Baptiste, hein, donc dès le début de l'Évangile, et que l'on a vu donc dans les versets précédents, hein, à partir du verset 27 dans le chapitre 7, hein, et puis le rappel du fondement scripturaire, donc on trouve en Michée 5:2, que le Messie sera de la lignée de David et qu'il viendra de Bethléem, qui est la cité de David. Donc là encore, certains veulent l'arrêter, mais on ne met pas la main sur lui. Il échappe, parce que personne ne met la main sur lui, il échappe, l'heure n'est pas encore venue. Toujours ce thème récurrent de l'heure, hein, très important dans l'évangile de Jean. Et ceux qui sont envoyés pour l'arrêter, eh bien, ils reviennent bredouilles, parce qu'ils n'ont jamais entendu un homme parler de la sorte. Les gardes du temple, parce que la grande prêtrise du temple avait une garde. Donc, on envoie les gardes du temple pour l'arrêter. Il est dans le temple. Il est dans l'un des parvis du temple. On ne précise pas s'il est dans le parvis des femmes ou des Israélites ou des gentils, mais je veux dire, il est dans le temple. Les autorités envoient la garde pour l'arrêter. Et ne l'arrête pas. On ne met pas la main sur lui, mais en plus, il y a cette notation savoureuse de saint Jean qui dit « Les gardes répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Et donc les pharisiens disent « Auriez-vous donc été abusés, vous aussi ? Parmi les notables ou parmi les pharisiens, en est-il un seul qui ait cru en lui ? Il y a tout juste cette masse qui ne connaît pas la loi, les gens maudits. » Alors ça fait référence... Il y a une notion de mépris de la part des autorités, hein, par rapport au peuple. Il y a vraiment une notion de mépris. Le terme exact, c'est « am haaretz », hein, les gens du pays, les gens de la terre. Bon, ceux qui ne sont... Ceux qui ne... Alors là, pour le coup, qui n'ont pas étudié, hein, qui ne... Voilà, qui ne connaissent pas les mitzvot et puis sont susceptibles de se laisser abuser par n'importe quel charlatan. Parce que, en fait, les Yudayoy, là, qui sont à l'œuvre. Ils accusent Jésus d'être un charlatan, de tromper les gens, d'être un faux prophète. Et c'est un motif, un faux prophète, c'est un motif de lapidation, entre parenthèses. Donc, c'est pas rien, quoi. Hein. Et là, on voit arriver à nouveau la figure, j'en ai parlé, de Nicodème. Mais Nicodème, qui est un sage en Israël, qui est l'un des pharisiens. Donc, vous voyez, tous les pharisiens, il faut être très très prudent et pas généraliser abusivement quand on parle des pharisiens, parce qu'il n'y a pas que Nicodème d'ailleurs, mais il y a des pharisiens dans l'Évangile qui opteront pour la foi, qui suivront le maître. Donc c'est pas un milieu homogène, il y a des tendances à l'intérieur du milieu pharisien. Et là Nicodème, qu'il dit, faisant référence à la loi mosaïque, notre loi condamnerait-elle un homme sans l'avoir entendu et sans savoir ce qu'il a fait? Donc il veut, c'est un homme de justice, et il veut que si procès il y a, si condamnation il doit y avoir, on doit d'abord entendre et juger sur les faits. Tout ceci est évidemment codifié dans la loi de Moïse, et ça lui vaut l'accusation de Galiléen. N'oublions pas que, ne serais-tu pas toi aussi de Galilée, n'oublions pas que c'était le vocable par lequel on désignait les chrétiens, avant de les appeler Christianos à Antioche, on les désignait souvent sous le titre de Galiléen. Alors là, ce fonctionnement du chapitre 7, on retrouve le même type de fonctionnement, d'ailleurs, dans le chapitre 8, parce que il y a des parallèles, il y a ce qui peut apparaître comme des redondances, en fait, relève d'un procédé pédagogique pour attirer l'attention sur les choses essentielles. Donc, il y a des versets qui seront à mettre en parallèle. Il y a des parallélismes entre différents versets. Je vais en citer, parce que l'Évangile insiste sur les faits essentiels, sur les points essentiels de cette révélation de celui qui se définit comme l'envoyé du Père. Alors, il y a une césure, parce qu'il y a une unité profonde entre les deux chapitres, 7 et 8. Il y a une unité de lieu, ça se passe dans le temple. Les interventions du maître sont dans le temple, les controverses avec les pharisiens se passent dans le même lieu, et entre les deux, cette unité de lieu semble rompue avec le récit de la femme adultère, qui ouvre le 8e chapitre. Hein ? Les 11 premiers versets du 8e chapitre, c'est le récit de la femme adultère, où on cherche à piéger Jésus, en fait. Parce que, évidemment, d'abord on peut dire que ce récit de la femme adultère, on s'est interrogé pour savoir si, à l'origine, il était véritablement à cette place dans l'évangile de Jean. Le récit est évidemment parfaitement canonique, mais il y a eu des doutes quant à l'origine de sa place. Certains l'ont placé dans l'évangile de Saint-Luc. On est étonné par le fait que il y a les pères grecs, par exemple, n'en parlent pas, ou quasiment pas, donc alors qu'ils sont très prolixes sur les chapitres 7 et 8, notamment Saint Jean Chrysostome en parle abondamment. Bon, ça c'est une question qu'il faut mettre à part dans le propos de ce soir, où on insiste surtout sur l'unité des deux chapitres, sur le fait que la révélation monte et que les tensions, les controverses qui accompagnent cette révélation de Jésus pour culminer sur une tentative de lapidation à la fin du 8e chapitre. C'est l'essentiel. Hein. Mais quand même, la place du récit de la femme adultère nous donne des choses intéressantes. Bon, d'abord, au milieu de ces tensions, de ces polémiques, qui sont très dures, ça apporte quand même une note de compassion. Une note de compassion, puisque on le voit à la fin des versets sur le récit de la femme adultère, où Jésus ne condamne pas la femme adultère. Le fait qu'il ne la condamne pas ne veut pas dire qu'il admet l'adultère, puisqu'il lui dit « va et ne pêche plus », mais il ne la condamne pas. Alors, on cherche à piéger Jésus dans ces versets sur la femme adultère. On veut la lapider parce qu'elle est prise en flagrant délit d'adultère. Mais déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que la loi, là, n'est pas respectée. Normalement, selon le Lévitique et selon le Deutéronome, c'est l'homme et la femme qui devraient être lapidés. Pas seulement la femme. Donc là, il n'y a que la femme qui est en cause, alors que, selon la loi, l'homme est tout aussi coupable dans cette situation d'adultère. Donc, les scribes et les pharisiens, cette fois-ci on parle des scribes et des pharisiens, cherchent à tendre un piège, parce qu'ils cherchent un motif pour accuser Jésus. Ils n'en ont pas trouvé, et ils en cherchent un. Bon, ils veulent accuser Jésus, de quelle manière? Bon, évidemment, s'il dit qu'il ne faut pas lapider la femme, bon, ils vont l'accuser de transgresser la loi de Moïse, bien sûr. Et s'ils disent qu'il faut la lapider, éventuellement, je dis bien éventuellement, ça c'est une hypothèse, hein, ils pourraient l'accuser d'exécuter une sentence qui... dont normalement les juifs n'ont plus le droit d'exécuter. Ils peuvent prononcer une condamnation, mais l'exécution ne leur appartient plus. On sait que depuis un certain temps, hein, les Romains avaient retiré au Sanhédrin la possibilité d'exécuter des peines de mort. Bon, dans la réalité, c'est quand même un peu plus complexe, c'est-à-dire que des lapidations... des exécutions par lapidation, il y en a eu, appelons ça des lapidations sauvages, bon, il y en a eu, et les autorités romaines, si tant est qu'elles étaient au courant, devaient fermer les yeux là-dessus, parce que ça n'engageait pas, disons, ça ne remettait pas en cause leur propre autorité. Leur autorité, leur pouvoir, hein, donc. Mais, voilà, c'est un peu les termes du piège. Alors, oui, vous voulez dire quelque chose ?
Dans ce que j'entends,
oui.
C'est est-ce qu'il faut la lapider, mais ils disent pas est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'on doit, j'arrive pas, je sais pas si vous comprenez ma question, c'est est-ce qu'il lui demande s'il pense qu'il faut effectivement la lapider, mais il ne lui demande pas si lui doit la lapider.
Enfin, non, non, mais.
C'est ça que j'entends.
De toute façon, il va répondre. Alors, il y a ce mystérieux verset hein, où on le voit se baissant et se mis à tracer du doigt des traits sur le sol. Ça, bon, j'avoue que j'ai absolument rien trouvé pour. Expliquer ça, pour moi, ça reste complètement mystérieux. Qu'est-ce qu'il écrivait? À quoi ça correspond? Je ne le sais pas. Mais il ne condamne pas la peine de lapidation qui est prévue par la loi en cas d'adultère. Il ne se prononce pas là-dessus. Mais il leur dit, si vous voulez la lapider, encore faut-il que vous soyez impeccable.
Oui, c'est ça. Voilà.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il détourne le piège, en fait.
Voilà.
Il sort du piège en les mettant en face d'eux-mêmes et en disant la fameuse phrase, hein, celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et on sait que tous se retirent, à commencer par les plus anciens. Donc là, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que pour justifier la place de ce récit de la femme adultère dans le début du chapitre 8, qui rompt apparemment l'unité d'action entre le 7 et le 8, où tout se passe dans le temple, de lieu et d'action, où tout se passe dans le temple, c'est la question de la lapidation, c'est-à-dire que tout se passe comme s'il prenait sur lui le péché de la femme, et que donc elle ne sera pas lapidée, mais lui, il sera menacé de lapidation à la fin du chapitre 8. Il y a peut-être sous-tendu l'idée qu'il prend sur lui le péché du monde. Lui qui est sans péché, il prend sur lui le péché du monde, il va le porter, il va l'assumer complètement jusque dans la mort. La femme échappe à la lapidation, mais lui, il va bien y avoir une tentative de lapidation sur sa personne, qui ne va pas aboutir à la fin du chapitre 8, mais bon, on va prendre des pierres et on va les jeter sur lui. Ensuite, donc, cette unité avec le chapitre précédent reprend au chapitre 8 à partir du verset 12. Et là, on est toujours... Là, on est avec les pharisiens, au verset 13, et on retrouve les Yudaïoï au verset 22. Les pharisiens lui dirent, et au verset 22, les juifs se dirent alors. Donc, pharisiens et les autorités. Alors, à partir du verset 12... Le débat sur l'identité reprend, plutôt il continue. Hein. Mais alors, on peut remarquer avec une intensité polémique qui augmente très fortement. Il y a des accusations très dures que Jésus va porter contre les Yudaïoï, mais ceux-ci vont répondre tout aussi durement, c'est-à-dire que ce n'est pas à sens unique les accusations. Jésus va leur dire que leur père, c'est Satan, et eux vont lui dire qu'il est possédé, que c'est un Samaritain, que c'est le démon qui parle par sa bouche. Donc c'est pas à sens unique. Hein. Et dans cet ensemble où la controverse sur l'identité de Jésus progresse, eh bien, la christologie johannique va, on peut dire, atteindre des sommets avec les trois ego eimi, moi, je suis. Et vous savez, je l'avais dit la dernière fois, c'est à 24 reprises qu'on trouve dans l'évangile de Jean cet ego eimi, je suis. Hein, moi, je suis. À 24 reprises. Mais là, on le trouve, dans les 24 reprises, on le trouve plusieurs fois avec un attribut. Hein ? Par exemple, je suis la lumière du monde. Je suis le bon berger. Plus loin, hein, dans le chapitre 10. Bon. Là, on va les trouver à trois reprises. Donc, au verset 24... au verset 28 et au verset 58, sans attribut. Donc, c'est ce que des exégètes appellent des ego eimi absolus, sans, sans être accompagné d'attributs. On continue, comme au chapitre 7, à voir se déployer la technique narrative du malentendu. Dans la discussion sur la destination de Jésus, où je vais, au chapitre précédent, c'est on avait eu la question, que je la retrouve, où est-il donc ? Qui est-il ? Et là, où va-t-il ? Où je vais ? Donc, c'est plus spécifiquement sur la destination de Jésus. On va retrouver aussi la discussion sur, à partir du verset 31, chapitre 8, la discussion sur la question de la liberté. Et là, la tension polémique va augmenter très très fortement, hein, puisque ça va être lié avec la question d'Abraham. Et on va retrouver aussi cette technique du malentendu sur le thème de la mort que l'on retrouve à la fin du chapitre 8. Alors, si on veut faire une division de ce chapitre, parce qu'il mêle beaucoup de thèmes, en fait. Vous voyez, la grande difficulté de cet ensemble de 111 versets, c'est que ça mêle beaucoup de thèmes, thèmes qui sont déployés au moyen de versets parallèles, pour en souligner l'importance. Et on retrouve dans ce chapitre 8 une pluralité de thèmes, qui en fait évidemment la difficulté. Mais on peut quand même...
Et l'intérêt,
bien sûr. On peut quand même diviser en trois parties, je pense. C'est ce que font tous les exégètes, et quand on suit le texte de près, c'est justifié. Donc, des versets 12 à 20, donc c'est la révélation de Jésus comme lumière du monde. Du verset 21 au verset 30, et du verset 31 au verset 59. Et comment voit-on que on a bien affaire à des séquences comme ça ? Eh bien, par l'emploi de l'adverbe « paline », qui signifie « à son tour » ou « de nouveau ». Là, on le voit au verset 12 et on le voit au verset 21. Bon, ça sert à introduire une nouvelle séquence, parce que bon, ben là, c'est l'agencement du narrateur, hein. Ce n'est pas une création de son propre chef, je veux dire, il s'appuie sur la progression du dévoilement de la révélation du mystère de la personne du Christ, bon, et des gestes et des paroles qui l'accompagnent, mais en même temps, le récit, la narration est organisée. Et c'est pour ça qu'on peut repérer ces séquences-là. Alors, de même que c'est introduit, il y a des coupures à la fin de chaque séquence narrative. Bon, ben, la première séquence, c'est « Personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue ». À la fin de la deuxième séquence, c'est « Alors qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui ». Et ainsi de suite. Donc, je reviens sur ces versets parallèles qui soulignent des thèmes fondamentaux qui parcourent ces deux chapitres. La question de l'heure, chapitre 7, verset 30, chapitre 8, verset 20, hein, qui clôt la première séquence narrative du chapitre 8. Chapitre 7, verset 28, qui a sa correspondance avec le chapitre 8, les versets 26-29. Et un autre parallèle, 7-31 et 8-20, sur le nombreux ceux qui crurent en lui. Hein ? Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit bien que c'est une technique qui vise à mettre en valeur les points essentiels du récit, sur son identité, sur l'identité profonde de Jésus et sur la réponse de foi qu'à l'appel. Parce que le dévoilement de cette identité appelle nécessairement à une prise de position en face de ces révélations. Donc il y a deux paroles de révélation dont il faut se souvenir, qui sont très importantes. Trois paroles de révélation. L'eau vive, au chapitre 7, la lumière du monde, au chapitre 8, et les trois « je suis », seul, sans attribut. Hein ? Donc, celui qui est « je suis », c'est inouï, hein, quand même. Hein. C'est-à-dire que là, c'est Jésus qui se révèle avec le nom divin. C'est absolument inouï. Et en même temps, à cette révélation de Jésus comme « je suis », le nom divin, donc, de la montagne révélé dans le livre de l'Exode, Exode 3,14, il y a la métaphore, l'opposition, donc lumière-ténèbre. Ceux qui prennent position pour Jésus sont dans la lumière, le reconnaissent, donnent foi à sa révélation et donc sont dans la lumière. Ceux qui rejettent cette révélation sont dans les ténèbres. Il y a cette métaphore de l'opposition lumière-ténèbre. Alors, il est intéressant de se souvenir aussi, toujours dans l'idée que ces révélations sont liées aux fêtes juives, cette révélation de Jésus comme lumière du monde, elle n'intervient pas à n'importe quel moment. Elle intervient donc dans le dernier jour de la fête. Il y avait donc les libations à l'autel, avec la procession à la fontaine de Siloé, les sept tours de l'autel, et puis l'autel aspergé par l'eau de la fontaine de Siloé. Et il y a aussi, dans cette journée, le parvis des femmes au temple, qui est éclairé par une lumière très vive, de telle sorte que cette lumière éclaire toutes les cours des maisons de la ville. Puisque le temple est en hauteur. Et donc, les maisons qui sont plus basses que lui sont éclairées par cette lumière vive. Et il y a donc cette thématique propre à la fête de l'éclairage du sanctuaire. Et puis, il y a aussi la thématique de la colonne de feu qui guidait les Hébreux au désert. Donc, c'est à ce moment-là de la fête que Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Vous voyez ? Il s'appuie sur cette référence à la fête, mais évidemment, il dit « La lumière du monde, c'est moi. C'est moi qui éclaire le monde, qui est venu dans le monde comme lumière de Dieu et pour conduire ceux qui croient en moi vers la lumière du royaume. » Et ensuite, donc, il y a encore tout un dialogue, enfin plutôt une controverse, entre lui et les pharisiens quant au témoignage de l'envoyé. C'est là, il y a un aspect juridique aussi dans ce chapitre 8. Il y a un vocabulaire juridique qui est très souvent employé, et il y a la référence au témoignage. Ce témoignage, bon, Jésus se le rend à lui-même. Donc les pharisiens lui répondent, mais selon la loi, ton témoignage n'est pas valable. Il faut au moins qu'il y ait deux témoins. Et là encore, il y a le malentendu, parce que la vision des pharisiens reste horizontale, reste selon les apparences. Mais Jésus fait comprendre que parce que lui, il est d'en haut et qu'eux sont d'en bas, ils ne peuvent pas comprendre que lui, il n'est pas seul. Il se rend témoignage, certes, mais le Père lui rend témoignage. Donc ils sont deux, le Père et lui. Encore une manière de souligner l'intimité qui existe entre lui et celui qui l'a envoyé. Parce que là, il va parler du Père. Il ne va pas parler simplement de celui qui l'a envoyé. Il va parler du Père. Hein ? On avait l'expression « celui qui l'a envoyé »,« celui qui m'a envoyé » dans le chapitre 7. Et là, on a le Père. Donc, là aussi, la révélation s'approfondit. Les pharisiens ne peuvent le comprendre. Et si en effet, il est dit donc au verset 24, « Si en effet vous ne croyez pas que je suis, c'est l'un des « je suis qui est sans attribut, vous mourrez dans vos péchés. » Ça, c'est terrible, c'est une accusation vraiment très, très, très dure qui est proférée contre les pharisiens. Mais ça veut dire que parce qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme l'envoyé du Père, ils ne peuvent pas être délivrés de leur péché. Car seul l'envoyé du Père peut délivrer du péché. Il est venu pour ça d'ailleurs. Il est venu pour délivrer les hommes du péché. Et le fait de ne pas le reconnaître, bonsoir, le fait de ne pas le reconnaître fait qu'on reste emmuré dans son péché. On est dans les ténèbres, on n'est pas compté comme bénéficiaire de la lumière du monde, qui est le Christ, et on est comme enfermé, on reste prisonnier de son péché, de ses péchés. Et là, la question revient, mais toi, qui es-tu ? Vous voyez, c'est sans arrêt ce balancement suite donc au témoignage de l'envoyé. Mais qui es-tu ? On verra encore où est ton père ? Encore une interrogation sur l'identité. Sans cesse, le débat rebondit sur la question de l'origine de Jésus et sur sa destinée. C'est vraiment incessant au cours de ce huitième chapitre. Donc, là, il y a une question aussi intéressante, c'est que Jésus répond « Ce que je ne cesse de vous dire depuis le commencement, toi qui es-tu ? » On lui pose la question. Jésus leur répondit « Ce que je ne cesse de vous dire depuis le commencement. » En ce qui vous concerne, j'ai beaucoup à dire et à juger, mais celui qui m'a envoyé est véridique, et ce que j'ai entendu auprès de lui, c'est cela que je déclare au monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur avait parlé du Père. Mais quand même, il y a un motif, bien qu'ils ne comprennent pas, il y a un motif d'espérance pour eux, parce que lorsque le Fils de l'homme, donc ça c'est un titre messianique, aura été élevé, eh bien, ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont emmurés dans leurs péchés, ceux qui ne sont pas délivrés des péchés de leurs péchés parce qu'ils ne connaissent pas l'envoyé et celui qui l'a envoyé, eh bien, lorsque l'envoyé aura été élevé, et l'élévation, c'est par la croix qu'elle passe, eh bien, ils connaîtront que le Père a envoyé Jésus, ils connaîtront, nous dit Saint Jean, que je suis. Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, je dis ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Donc, la réponse de Jésus est complète, là, quant à question du témoignage. Et après cette parole, là encore, les hésitations de la foule, beaucoup crurent en lui. Donc, vous voyez, c'est la foule, certains dans la foule ont la foi, mais c'est une foi qui est très vacillante, en fait. C'est une foi qui n'a pas de solidité intérieure, c'est une foi qui est sujette à des balancements, à des allers-retours, à des renoncements aussi. Bon, donc ça n'a pas beaucoup de valeur en fait. Et évidemment, l'évangéliste parle dans un contexte, mais ça a une valeur aussi pour toutes les générations de croyants. Puisque toute l'interrogation et les réponses qui sont apportées dans ces deux chapitres sont à contextualiser, bien sûr, dans le cadre d'une controverse avec les autorités et avec les scribes et les pharisiens, mais c'est aussi un message pour la communauté johannique et à travers la communauté johannique pour les croyants de toutes les générations. C'est-à-dire que les types d'interlocuteurs que nous trouvons là dans ces deux chapitres-là, c'est des interlocuteurs de tous les temps, y compris dans l'Église. Y compris dans l'Église.
Là, c'est très clair.
Hein, ça ne peut pas être nié. Hein. Alors, ensuite, ça débouche sur la question de, pour finir, d'Abraham. Et il y a tout le discours sur la liberté, la vérité, la véritable paternité. Mais on remarquera que c'est un discours qui s'adresse là, Jésus, Saint Jean nous dit, Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc c'est pas à l'adresse de toute la foule, c'est pas à l'adresse des autorités, hein, c'est à ceux qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et c'est là qu'on voit qu'ils n'ont pas compris grand-chose et que ceux qui avaient cru en lui ont une foi pour le moins vacillante, puisqu'il réplique avec l'argument de la paternité abrahamique et qu'au nom de cette paternité abrahamique biologique, jamais personne ne les a mis en servitude. Alors, il ne faut pas voir là simplement sur le plan de l'horizontalité de l'histoire, parce que Israël a été en servitude dans sa longue histoire, hein, évidemment. Mais c'est parce qu'ils sont fils d'Abraham, donc c'est relié à Dieu également, ils ne sont pas en servitude. Hein, vous voyez, ce n'est pas de la servitude politique là dont il s'agit. Ils ne sont pas fous, ils savent très bien que Eretz Israël a été en servitude politique avec Nabucodonosor, avec les Assyriens, avec les Romains. Bon, donc c'est la question, ce qui est sous-tendu là, c'est la liberté qui est vécue dans une relation à Dieu et qui est accordé à la race d'Abraham par Dieu. Mais donc ils s'opposent, bien qu'ils aient cru à Jésus, ils s'opposent à lui et ils lui font cette objection.
Ça paraît légitime.
Oui.
Ça paraît légitime.
Oui, on peut tout à fait comprendre.
Ça élève un peu le débat aussi.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais Jésus, d'ailleurs, le dit. Il dit, oui, je sais, vous êtes de la race d'Abraham. Vous êtes de la descendance d'Abraham. Ça, je le sais, hein, c'est au verset 37. Mais il ajoute, parce que ma parole ne pénètre pas en vous, vous cherchez à me faire mourir. Autrement dit, vous prétendez de la race d'Abraham, Abraham qui a obéi à Dieu, qui a cru en lui, qui a obéi à la promesse, qui a obéi à l'injonction de Dieu, pardon, et qui a reçu la promesse de Dieu. Dieu lui dit, quitte ton pays, ta famille, et va-t'en. Et Abraham obéit. Et donc Jésus, après leur avoir dit, je sais que vous êtes de la race d'Abraham, mais si vous étiez de la vraie lignée d'Abraham, eh bien, vous feriez, vous imiteriez votre père Abraham. Hein? Vous l'imiteriez, vous feriez les œuvres d'Abraham. Et il y a une réplique à ce moment-là, c'est très dur hein, comme contexte, hein. Il y a une réplique, Jésus finit par leur dire « Mais vous faites les œuvres de votre père », il n'a pas encore dit quel est leur père, là. Mais il va le dire plus loin. Et donc, il s'attire une réplique, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous n'avons qu'un seul père, Dieu ». C'est-à-dire, la prostitution dont il s'agit là, c'est le culte des idoles. Hein. C'est, la prostitution dans l'Ancien Testament, c'est toujours lié à l'infidélité, à l'alliance et au culte des idoles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce passage? Ça veut dire que la véritable descendance d'Abraham, ben, elle se révèle dans les œuvres que l'on accomplit. C'est donc d'abord une filiation spirituelle. Hein. On passe là d'une filiation biologique, d'une paternité biologique à une paternité spirituelle. Et puis ça veut dire que si le salut n'est pas donné une fois pour toutes, si on sort si on ne fait pas les œuvres d'Abraham, eh bien... on perd cette paternité abrahamique. Et donc, voilà. C'est donc un conflit des paternités qui est mentionné à plusieurs reprises. Alors, il est intéressant de voir dans le texte grec, on parle de la descendance d'Abraham, des enfants d'Abraham, et votre père, notre père et votre père. Sperma Abraham, Tekna Abraham, et O Pater Umon, Emon Abraham. Donc, c'est dans les versets 33-37, versets 39, et dans les versets 39-53-56 de ce chapitre 8, bien sûr. Ça renvoie à des versets vétérotestamentaires, tels que l'on trouve chez Isaïe, par exemple, dans le Targum d'Isaïe aussi, et dans la littérature intertestamentaire, notamment dans le livre des Jubilés. Alors, cette controverse sur la paternité se termine en disant « Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'auriez aimé, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de mon propre chef, c'est lui qui m'a envoyé. » Et les Juifs ne comprennent pas ce langage, c'est qu'ils sont incapables d'écouter la parole. La parole, bien sûr, qui est celle du Christ. Et cette incapacité à écouter la parole du Christ, bien, elle manifeste qu'ils n'appartiennent pas à Dieu. Vous voyez, c'est très dur hein, quand on regarde... Derrière la simplicité des mots, il y a une dureté dans le revoi des questions-réponses et des accusations. Vous voulez dire quelque chose,
hein? Oui, parce que là, quand il répond, vous en avez parlé tout à l'heure, quand il nous dit que c'est Satan qui est leur père, enfin là, il dit dans mon livre, c'est... Mmh. Le père dont vous êtes et le diable.
Oui.
C'est très très dur et ça me pose un questionnement par rapport à l'hérésie cathare. Mm-hmm. Parce que les cathares prétendaient que la terre était la création d'un démiurge.
Oui.
Et donc, d'ailleurs, il s'appuyait sur l'évangile de Jean Et je me demande justement si ce verset-là n'est pas un peu la porte de l'eau à leur moulin, Et donc, je m'interroge, qu'est-ce qu'il voulait dire exactement quand il dit « Votre père, c'est le diable », c'est ça, ma question en fait. Je me disais qu'est-ce que j'ai...
Non, mais c'est des contextes très différents. C'est-à-dire que, bon, le catharisme, c'est la gnose. Ça n'a rien à voir. Enfin, ça a beau utiliser des éléments de l'Écriture sainte, mais comme toutes les hérésies, je veux dire, Marcion, il avait évacué, par exemple, tout l'Ancien Testament. Il n'avait gardé que quelques lettres de Paul et il avait un évangile très expurgé de Saint-Luc. Bon. C'est-à-dire que la caractéristique des hérésies, c'est que elles font servir les Écritures à leur doctrine, mais en ne choisissant dans les Écritures que ce qui conforme leur doctrine. Alors le catharisme, c'est une résurgence du gnosticisme, parce que de toute façon, ça s'oppose point pour point à toute la tradition biblique, à commencer par la Genèse, où la création est bonne. Bon. Donc c'est un mauvais remake de la chute dans la matière et tout ça, quoi, je veux dire. Bon. Alors, ils ont pu se servir de certains versets de Jean, mais bon, ça n'a aucun rapport. Là, le contexte n'est pas du tout celui-là. Il faut voir que la diabolisation dont on parle, parce que, et j'y viens... Jésus accuse donc ceux qui ne croient pas en lui d'être non pas de Dieu, parce que lui il est l'envoyé de Dieu, donc dans la mesure où ils ne croient pas à l'envoyé, ils ne sont pas de Dieu. Donc contrairement à ce qu'ils disent, leur père n'est pas Dieu, mais le diable. Mais c'est sûr que de toute façon, il n'y a pas de choix autre. C'est soit la paternité divine, soit la paternité diabolique.
C'est troublant.
Bon, c'est troublant, mais il faut se souvenir d'une chose, parce qu'effectivement, le contexte, il ne faut pas...
Elle parle bien de paternité, quand même.
Il ne faut pas absolutiser ce texte-là, il faut bien le contextualiser. Ouais. La diabolisation, elle est réciproque, si on est attentif au texte. D'abord, elle n'appartient pas qu'à l'Évangile. Attention. Ouais. Isaïe, j'avais noté d'ailleurs que dans Isaïe 10, par exemple, Isaïe 1, verset 10, les Israélites sont traités de chefs de Sodome et de peuple de Gomorre. Donc, c'est pas purement, simplement diabolique. Bon. Dans la littérature de Qumran, c'est pas directement l'Écriture sainte, mais c'est dans le milieu juif. Bon, dans la littérature de Qumran, on parle des fils de Bélial, donc un démon. Dans le Testament, je vous avais parlé donc des écrits intertestamentaires, hein, qui aident beaucoup à comprendre la tradition orale d'Israël, les développements interprétatifs à partir de l'Écriture. Et il y a le Testament des 12 patriarches, et donc dans le Testament de Dan, donc l'un des 12 patriarches, il est dit « Votre prince, c'est Satan ». Donc il y a ces accusations mutuelles de diabolisation, elles n'appartiennent pas en propre à l'Évangile de Jean, mais on les trouve à l'intérieur du monde juif lui-même. Hein? Non, mais effectivement, je veux dire, la logique donc de ce chapitre 8, s'agissant de la paternité, puisque on est passé à travers la controverse de la paternité abrahamique et on remonte à la paternité de Dieu lui-même. Bon, puisque les Juifs disent mais notre Père c'est Dieu, eh bien. Comme ils ne reconnaissent pas l'envoyé, Jésus retourne en disant « Comme vous ne me reconnaissez pas comme l'envoyé, vous ne pouvez pas être de celui qui m'a envoyé. Donc, vous n'êtes pas... Votre père, ce n'est pas Dieu, mais le diable, le père du mensonge. » Évidemment, c'est une accusation très, très dure. Hein, mais elle est partagée dans la mesure où les Juifs répondent tu n'es qu'un Samaritain. Pour les Judéens, les Samaritains, c'est l'injure. Les Samaritains, on en a parlé de multiples reprises, mais les Samaritains sont complètement rejetés. Et tu es un possédé. Bon, quand on est possédé, ça relève pas de Dieu, ça relève du prince de ce monde. Alors après, on revient, pour terminer, on revient sur la thématique d'Abraham, après le conflit des paternités. On termine avec ce qui va être le point culminant de ces deux chapitres, quand les Juifs disent à Jésus: nous savons maintenant que tu es un possédé, Abraham est mort et les prophètes aussi, et toi tu viens dire, si quelqu'un garde ma parole, il ne fera jamais l'expérience de la mort. Donc ça, c'est là encore le malentendu dans le thème de la mort, puisque c'est pas la mort physique là dont on parle, c'est la mort spirituelle. Jusqu'à la consommation des siècles, la mort physique existera, mais celui ou celle qui donne sa foi à l'envoyé, ne connaîtra pas la mort spirituelle. Et il est vrai fils d'Abraham au sens spirituel du terme, et pas au sens biologique. Donc, on lui pose la question: serais-tu plus grand que notre père Abraham? Et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu donc? Voilà encore, ça revient. Et Jésus répond qu'il ne se glorifie pas lui-même, parce que sinon sa gloire ne signifierait rien. Il se rendrait témoignage à lui-même, son témoignage ne serait pas valable. On a vu ça dans la question des témoignages tout à l'heure. Mais c'est mon Père qui me glorifie, dit-il, lui dont vous affirmez qu'il est votre Dieu, vous ne l'avez pas connu, tandis que moi je le connais. Si je disais que je ne le connais pas, je serais tout comme vous un menteur, mais je le connais et je garde sa parole. Et là, on nous dit que Abraham a exulté dans l'espoir de voir son jour, de voir le jour du Seigneur. Et bon, là encore, on est sur deux niveaux qui ne se rejoignent pas du tout, mais comment peux-tu dire des choses pareilles? Tu n'as même pas 50 ans et tu as vu Abraham. Et Jésus répond, et là c'est le point vraiment culminant de ces deux chapitres, ce qui va lui valoir, parce qu'après on va s'acheminer assez rapidement vers le procès et vers la mise à mort. Et dans un premier temps, c'est ce qui va lui valoir la tentative de lapidation. Eh bien, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham exista ou fût, je suis. Encore, donc, un ego émis sans attribut. Et là, c'est le point culminant de toute la... l'un des points culminants de toute la christologie de l'évangile de Saint Jean, et le point culminant de la révélation du mystère de la personne du Christ, puisque le Christ, là, s'attribue le nom de Dieu. Donc, c'est... Et alors, ça se termine au verset 59, ils ramassèrent des pierres pour les lancer contre lui, mais Jésus se déroba et sortit du temple, parce que, dans leur logique, il ne pouvait pas en être autrement, puisque, selon leur logique, il était blasphémateur. D'ailleurs, ça sera repris au procès, cette accusation de blasphème. Il est blasphémateur. Il se pose comme Dieu, donc il est blasphémateur. Et donc il mérite la lapidation. Leur logique, la logique de ces Yudaïoï, donc des autorités, elle est cohérente.
C'est pathétique.
Ah oui, c'est un ensemble très, où il y a une tension très forte, où le malentendu fonctionne d'un bout à l'autre, et où les accusations se font, oui, se font très, c'est très polémique, il y a un fond polémique, et en même temps, il y a une montée de la révélation jusqu'à ce verset 58, où là, elle apparaît.
Mais quand Jésus leur répond, il a bien conscience qu'ils ne peuvent pas le comprendre.
Ben oui.
Et pourtant, il prend pas de gants. Hein.
Non, mais...
Donc c'est...
Non, il prend pas de gants, bien sûr. Non, mais bon, c'est... Oui, mais en même temps, la porte est ouverte. La porte est ouverte, puisque il leur dit à un moment donné... C'est jamais fermé, puisque en fait, dans tout l'évangile de Jean, il y a un appel à la conversion, au retournement, à la métanoïa, à la conversion. Bon. Donc, les choses ne sont jamais arrêtées une fois pour toutes. Bon, ils ne jouent pas, effectivement, ils s'endurcissent. Plus on progresse dans la révélation, qui aboutit au je suis majestueux du verset 58, hein, plus ses opposants s'endurcissent. Mais en même temps, ils peuvent sortir de leur endurcissement. Et il y a même une porte qui est ouverte. À un moment donné, il leur dit « Lorsque j'aurai été élevé, vous connaîtrez que je suis. » Donc les choses ne sont pas fermées pour eux, pourvu qu'ils s'ouvrent. Mais...
Oui. Pour révéler quelque chose, donc il lui dit ce qu'il a à dire sans
tout à fait.
Si en disant il faut bien ne pas les fâcher et les laisser dans les ténèbres, et moi je comme ça je suis tranquille.
Oui,
je
sais pas,
il leur dit sans phare ce qu'ils sont, je veux dire, parce que le regard du Christ se pose sur eux sans aucun espèce de détour. Et comme il se pose sur nous tous, sans détour, et il ne cherche pas à esquiver. Quand il s'adresse à nous, il nous met en face de nos responsabilités, de notre conscience, et il peut s'adresser à nous très durement, selon notre état intérieur. Je veux dire, il n'est pas là pour jouer comme ça en demi-teinte. Il est là pour nous sauver. Et pour nous sauver, ben, des fois, il y a des thérapies de choc. Hein.
Oui, mais je veux dire, à cette époque, comme il dit, son temps n'était pas encore venu, donc les autres n'étaient pas obligés de le croire. C'est ça. C'est pour ça que je dis il avait quand même des paroles assez dures pour des gens qui n'étaient pas censés le croire sur parole. Enfin, c'est ça que je voulais dire.
Oui,
oui,
mais là, c'est pas simplement le croire sur parole, c'est argumenté. Et puis, il y a tous ces gestes. Il y a aussi...
Il n'y avait pas que lui qui faisait des miracles...
Oui, mais enfin,
il pouvait très bien le prendre effectivement pour un illuminé, quoi.
C'est ce qu'ils font d'ailleurs.
Surtout quand il disait qu'il pouvait le prendre comme une provocation quand il disait qu'il avait rencontré Abraham. Il pouvait très bien penser qu'il avait pris peut-être des substances. Enfin,
c'est ce qu'ils font. Donc, leur remarque est là pour l'attester, puisqu'ils disent comment toi. Tu n'as même pas 50 ans, tu as vu Abraham.
Ça,
bien sûr. Oui, là, on est dans un dialogue où le malentendu fonctionne à plein. Hein. Ça parcourt. C'est la technique du malentendu, elle est très présente dans l'évangile de Jean. Hein. Mais là, c'est deux chapitres très difficiles.
Moi, je trouvais ça passionnant.
C'est deux chapitres très difficiles. Hein.
Oui.
Et on est très très loin d'avoir tout dit là-dessus.
Si on rentre dedans, on sent la tension.
Oh là là.
Le prêt à craque, c'est presque.
Non, mais même par la signification même des paroles, je veux dire, c'est très difficile.
C'est pour ça que je réagis. je réagis parce que.
Oui, mais vous avez raison.
Je le ressens, cet enjeu.
Depuis le début de notre parcours, là, c'est vraiment les deux chapitres les plus difficiles.
Passionnant, vraiment passionnant. En même temps.
Il y a de quoi revenir.
Ah oui, oui.
Voilà, bon.
Merci.
Allez.
Merci beaucoup.
Merci à tous. J'espère que c'était pas trop laborieux.
Merci.